Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on débriefe le soporifique Manchester United. Arsenal, c'est parti. Et pour ce podcast, je suis accompagné de celui qui aurait dû très probablement être présent sur le banc de Paris pour coacher cette équipe en Ligue des Champions contre Dortmund. Il n'en fut rien. Résultat, défaite. Raoul, mon bien-aimé, comment tu vas?
Salut Méchane, salut tout le monde. Ben, ça va très bien. Très très bien, merci. Et toi?
Écoute, ça va. Ça va, ça va. Je viens de faire une sieste d'1h30 là, donc je suis pleine forme, pleine balle. Ça tombe bien parce qu'on va commenter du coup ce très beau match. On commence par la composition des équipes. Je ne pense pas qu'il soit très utile de la commenter, puisque de toutes les manières, elle était attendue et ça fait plusieurs matchs maintenant qu'elle est de mise. Donc, au cage, Gand Mickey, qui apparemment fait partie du top 5 des gardiens. Hein, mondiaux. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle. À droite, Ben White dans l'axe, Saliba Gabriel à gauche, Tomiyasu au milieu de terrain. Numéro 6, Partey, accompagné d'Odegaard et de Rice. Et puis devant, Saka à droite, Havertz en attaquant numéro 9 et Trossard à gauche. Que dire sur ce match, Raoul? Si ce n'est qu'on a fait le taf, voilà, on a fait le boulot, il fallait gagner, on gagne, on laisse le suspense jusqu'au bout du bout. Est-ce que toi, tu as envie déjà de commencer par l'aspect global du match pour peut-être rentrer dans le détail un peu plus, enfin, juste après, quoi.
Ben, moi, ça fait quand même quelques semaines que je le dis maintenant, et tu l'as résumé. Le seul enjeu de ce match-là, c'était de s'offrir une finale dans une semaine à la maison contre Everton. Alors, une finale où on va dire, je pense que les dés seront légèrement pipés. Bah, pipés. Ça va dépendre du résultat de mardi et de City qui va à Tottenham. Donc, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à te dire mission accomplie. Après, bien entendu, qu'en tant que ça, c'est côté, on va dire, fan des Gunners. Après, en tant que d'amoureux du football et du beau jeu et des matchs d'Arsenal cette saison quand même, de façon générale, surtout sur la deuxième partie de saison, on pouvait s'attendre ou du moins espérer. Un match d'une qualité qui était tout autre, notamment de par le nombre d'absents constatés à Manu, qui était quand même assez assez phénoménal, et puis des noms pour Manchester, en tout cas des noms qui n'étaient pas forcément trop dégueulasses, même si c'est pas forcément des joueurs que moi j'aime bien, mais en tout cas ce sont des joueurs qui sont pardon qui sont titulaires. Je pense notamment à leur capitaine Fernandez. Donc c'était une équipe remaniée et ben, force est de constater que pour ceux qui ont vu le match, ça n'a pas été du tout le cas. Alors maintenant, on va pouvoir y revenir un petit peu, mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi savoir se contenter de gagner les matchs, même quand on est, je vais pas dire pas bon, mais quand on est moins bon. Parce que si on avait, sans être bon, gagné nos matchs ou du moins fait match nul contre Fulham, West Ham, Villa et compagnie, ben on serait peut-être dans une situation plus confortable maintenant qu'on ne l'est, même si on reste aujourd'hui top of the league. Donc voilà. Donc je m'attendais pas à grand-chose. On n'a pas eu grand-chose. Mais je pense qu'on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail parce que sinon le podcast va durer 5 minutes et puis c'est pas, ça va pas être top. Ah oui, pardon, je voulais juste, excuse-moi Méchade, faire une petite parenthèse sur le podcast de la semaine dernière que j'ai fait avec Yannick et avec Osama, puisque toi et Richard vous étiez absents et que vous m'aviez laissé la responsabilité de l'animation. Je voulais juste m'excuser par rapport à la qualité du son de la première partie du podcast, il y a eu un problème technique qui rend ce podcast assez inaudible. du moins sur la première partie, la première demi-heure. On s'en est pas forcément rendu compte sur le moment, puisque Yannick et Osama m'entendaient très très bien. Et donc du coup, c'était vraiment très surprenant pour moi, la réécoute, d'entendre cette qualité très très médiocre. Et pour ça, je tenais à m'en excuser. Voilà. Et deuxième petite parenthèse, puisque
Ça
tu
arrive,
l'as.
j'aurais juste aimé Raoul que ce problème de son arrive au moment où vous parliez de l'incroyable meilleur
Et
carrière.
voilà. Et moi, en fait, ça fait une semaine que j'attends ce rebond-là, puisque Yannick, eh ben, Osama, pardon, a quand même lancé pour moi une bombe nucléaire. Alors, pas sur Hiroshima, mais dans le podcast Arsenal French Club. Et j'aurais tellement aimé que tu sois présent, parce que je pense que quand tu l'as entendu, je t'avais conseillé d'être assis. J'espère que tu m'as écouté.
Écoute, j'ai pas beaucoup de cheveux, je pense que j'ai perdu le peu de cheveux qui me restait sur la tête.
Mais belle
Non,
bombe de la part de la barre d'Osama.
mais après, Raoul, tu sais, on est ici pour débattre, et c'est intéressant qu'il y ait ces différents opinions, et c'est ce qui fait que justement, il y a un intérêt à parler de ces matchs-là et à commenter ces matchs-là. Maintenant, je comprends aussi pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on commente les prestations de Raya, il y a une espèce de tension qui apparaît, parce qu'en fait, ce mec-là, il laisse pas indifférent. Personne n'est neutre. C'est soit on ne supporte pas ses prestations, soit au contraire, on adoube ses prestations. Alors j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut adouber ces prestations-là, parce que pour moi, tu mets un mec sans main, c'est Raya. Pour moi, ce mec n'a pas de main, si ce n'est des gants, voilà, des gants de Mickey. Mais écoute, voilà, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut encore réussir à défendre ce gardien, et encore plus à le placer dans le top 5 mondial quand il y a 20 gardiens meilleurs que toi en première ligue. Enfin, pas 20, 19 du coup. Mais voilà,
Ah
c'est
non,
mon.
20, parce que Ramsdale est meilleur, donc ça fait
Oui, c'est
20.
vrai, parce que Ramsdale est meilleur, c'est vrai. Mais enfin, on peut très largement citer au moins 10 gardiens meilleurs que lui, même en Ligue 1 d'ailleurs. Donc voilà, à un moment donné, tu as dit que tu préférais avoir un Mandanda dans les cages. Bah
Mais
franchement,
clairement, oui, clairement. Mais
pour
je le
moi,
pensais,
Mandanda,
ça,
il ne fait
alors
pas d'erreur.
ça a jeté un blanc, mais je le pensais vraiment, parce que.
Au moins, Mandanda, il fait pas d'erreur. Moi, je suis un peu de la vieille école. Je trouve qu'un gardien doit être d'abord bon avec ses mains avant d'être bon avec ses pieds. Et que ce soit dans les sorties, dans les 1v1, dans l'assurance, dans la manière de diriger sa défense, c'est très compliqué. Mais bon, bref, on va pas parler de Raya
En tout cas, on
aujourd'hui.
salue Osama.
On salue Osama, bien sûr. Bienvenue. Mais non, non, mais voilà, et je pense qu'on fera au moment des bilans un vrai
Oui,
focus,
mais ouais.
parce qu'il le mérite. Enfin, il le mérite il mérite qu'on fasse un focus sur sa saison, parce que sa titularisation a engendré des problématiques, en fait, ou des solutions, je sais pas, mais pour moi, plus des problématiques que des solutions. Voilà.
Déconnecté, il y aura en tout cas ce débat tant attendu, on l'aura, et puis je pense qu'il faudra qu'on propose à certaines personnes qui nous suivent régulièrement si elles souhaitent intervenir, de pouvoir intervenir sur ce type de podcast d'intersaison qui donneront matière à patienter avant un nouvel exercice, et puis qui permettra aussi peut-être à plus de monde de s'exprimer que sur des briefs d'après-match.
Absolument, absolument.
Voilà, allez, revenons, j'ai fait mes parenthèses, revenons à ce
Revenons
match.
au match. Franchement, je pense que c'est un des pires matchs que j'ai vu d'Arsenal cette saison, vraiment. Pas d'un point de vue technique, quoique, pas d'un point de vue tactique, mais c'est juste que c'était horriblement ennuyeux, quoi. Voir, en fait, dès lors qu'on a mis le premier but, j'avais l'impression que les joueurs étaient en gestion et qu'ils en avaient un peu rien à faire, et qu'en fait, ils savaient très bien que Manchester, c'était faible. Enfin, c'est faible, franchement, c'est pas ouf. Pour le coup, tactiquement, tu as l'impression que Manchester, c'est vraiment 11 joueurs posés sur le terrain, et puis démerdez-vous, quoi, faites ce que vous pouvez. Et surtout, Garnacho, c'est un vraiment super joueur, pour le coup, j'aime beaucoup. Parce que c'est un des seuls qui a essayé de proposer quelque chose, mais tu avais vraiment l'impression. En tout cas, Arsenal, c'est pas fait mal du tout sur ce match. Et donc, il y avait beaucoup de phases arrêtées, beaucoup de moments où on savait pas trop quoi faire du ballon, des phases offensives où ça manquait énormément de présence devant, donc les joueurs étaient obligés de revenir en arrière pour essayer de faire en sorte que le bloc équipe remonte, parce qu'en fait sur ce match c'est Manchester qui a eu la possession du ballon et Arsenal a laissé complètement Manchester faire le jeu, sauf que Manchester ne sait pas faire le jeu. De toute façon cette année Manchester ne sait pas faire grand-chose.
Non.
Donc voilà, c'est et pour moi ça dénote quand même d'une problématique. On en parlait avec Axel en début de saison, d'une problématique qu'il y a dans cette équipe, c'est-à-dire que moi, pour moi, c'est des matchs où tu dois tuer l'adversaire. Tu dois, si tu peux en mettre 5, mais mets-en 5, mais mets-en 15 même. Aujourd'hui, il y avait la possibilité de mettre 2, 3, 4 buts largement si tu avais joué à minimum à ton niveau. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu te réserves là alors qu'il reste qu'un seul match. Enfin, Bref, c'est.
Je pense pas que c'est une question de réserve, Michel. Je pense que on arrive vraiment sur le final du final du final du championnat, que on est mathématiquement encore en course et que tu sais que tu as cette obligation de gagner. Et moi, je présume que le match contre Everton à la maison sera sensiblement du même registre.
Oui, bien
Pourquoi?
sûr.
Parce que tu as une fébrilité. Alors, un joueur tactique, technique, ne devient pas mauvais en une semaine. On a vu Ødegaard qui était beaucoup plus effacé. On a vu des joueurs qui étaient d'habitude très performants qui le sont, qui l'ont moins été. Et je pense qu'en fait, là où je te rejoins, c'est que, alors ça peut être, pour moi, c'était une erreur, mais quand tu mets le premier but, tu sais que tu es devant, que tu as les 3 points et que l'objectif que tu es venu chercher, à l'instant T, il est atteint.
Mais à
Et la
1-0, c'est
question, c'est
dangereux
de
de faire
savoir
ça.
si c'est.
À 1-0, t'es qu'à 1-0, hein.
Ah, mais bien sûr, mais moi j'ai même mis un tweet en disant vous sentez le 1-1 à la 89e, tant si on ne marque pas, quoi. Parce que le pire là-dedans, c'était que, et là je te rejoins, c'est que l'équipe d'aujourd'hui, autant le 3-2, tu vois, moi je trouve qu'il était plaisant, et à l'aller, il y avait de l'animation, le 3-1, il y avait de l'animation, etc. Autant ce match-là, avec tous les absents, on avait une équipe, d'après moi, honnêtement, je pense que c'est l'une des équipes les plus faibles que l'on ait rencontrées de tout le championnat.
Ah, c'est.
Avec une défense centrale, Evans, 36 ans, Casemiro qui redescend, ce n'est pas son poste de prédilection, avec un milieu de terrain qui était très expérimental. Et du coup, je pense qu'il y a eu une sorte de facilité, sauf que comme on le dit, mais d'ailleurs à chaque match de foot, ça soit, c'est vrai, et je reprends toujours cette expression, mais en district, ou en première ligue, en Ligue 1, ou en Ligue des Champions, ou championnat d'Europe, ou Coupe du Monde, tant que tu mènes 1-0 et que tu n'as pas fait le break, t'es pas à l'abri d'une main dans la surface, d'un penalty, sifflé, justifié ou non, etc. Et donc, du coup, tu te crées une tension supplémentaire. Alors, on avait pour moi largement les moyens de mettre les buts. Par contre, on n'a pas eu les occasions. Bah, on a eu très peu d'occasions pour le faire.
Après, il y a Onana qui a sorti quelques arrêts, mais
Ouais, mais
enfin,
on n'a pas joué. On n'a pas joué
on
et
n'a
ça,
pas
c'est
joué.
assez regrettable. Mais moi, tu vois, je sais que sur les premiers matchs, sur les premiers podcasts que je faisais avec Axel, je sais que Axel était souvent très en colère des non-matchs d'Arsenal, même si la victoire était là, etc. Il
Suis
disait,
d'accord.
mais moi, je m'en fous de gagner, mais là, on fait des purges, etc. Alors, il faut aussi dire que ces victoires, quand on a fait des purges en première partie de saison, nous permettent aussi d'être top of the league à une journée de la
Ouais,
fin, alors avec un match d'avance.
mais là, c'est
Donc,
un vrai débat, Raoul, parce que c'est le débat entre. En fait, faut pas oublier que le. En fait, ça dépend de comment tu raisonnes. Si tu raisonnes par la perf, ce qui est ton discours, ou si tu raisonnes par les émotions et le plaisir que tu as à regarder du foot, tu
mais moi,
vois.
j'ai toujours.
Moi, je suis absolument d'accord avec Axel sur ce point-là. Moi, franchement, ce match-là, aujourd'hui, je l'ai regardé parce que je savais qu'on avait un podcast derrière et parce qu'on le fait pour la communauté. Mais franchement, au bout du au, quoi, je crois, au bout de la 3e minute, je t'ai dit, c'est quoi ce match horrible, quoi. Enfin, franchement, c'est. Et en fait, globalement, enfin, au-delà de dire que c'est pas une perf extraordinaire, etc., moi, je répète que ça dénote de quelque chose d'important cette saison et qui a fait qu'on n'est pas passé contre le Bayern, par exemple, en Ligue des Champions. C'est que globalement, quand il faut mettre de l'intensité, Arsenal en est que très rarement capable. Très rarement capable. Quand il faut appuyer, faire des courses, faire mal, la gratuité de l'effort, je trouve qu'il y a peu de joueurs dans cet effectif, dans ces moments-là, qui sont capables de le faire, notamment sur la partie offensive, parce que ça vivote, parce que ça joue tranquille. Tu as vu les premières minutes de Partey aujourd'hui? Partey, il était sur, il jouait avec deux miroirs, il se regardait jouer, il était en détente, le gars, tranquille. Et il a failli se faire prendre un ballon dès les premières minutes de jeu parce que le gars, il voulait se faire un contrôle orienté à ses 10 mètres. C'est, je sais pas, et en même temps, c'est un peu faux ce que je dis parce qu'il y a des mecs comme Rice, comme Odegaard, comme Martinelli, quand ils le veulent, qui peuvent se faire mal. Tu parles de ton joueur préféré, Havertz, qui fait des efforts aussi, enfin, White, mais je trouve que quand il faut collectivement mettre de l'intensité dans les matchs, eh ben, c'est difficile. Et aujourd'hui, j'avais pas l'impression que l'équipe avait envie de se faire mal. Voilà, elle se savait supérieure à United et c'était largement suffisant. Ils ont mis leur 1-0 et derrière, c'était franchement, à partir du moment où tu laisses le ballon à l'équipe adverse, que tu te concentres sur l'aspect défensif et que tu veux sortir en contre, ben, c'est que tu es un peu en gestion quand même. Hein. Enfin, franchement,
Ben,
je.
mais, là, moi, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, si. Ah oui, on en parle quand même souvent. Tu sais que je prône quand même toujours le foot total, etc., etc. Donc, bien entendu, que moi, si je pouvais m'éclater devant chaque match d'Arsenal, je le ferais. Après, je reste supporter d'Arsenal. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné un titre de champion d'Angleterre. Et si, pour être champion sur une saison, il faut passer par 5-6 purges, même 10 purges, avec la deuxième partie de saison qu'ils ont fait, on peut quand même pas trop critiquer à ce niveau-là. Eh
Exactement, c'est
ben,
ça.
passons par là. Mais sachons gagner les matchs quand on n'est pas bon, tu vois. C'est voilà. Donc du coup, je veux pas faire une réponse en deux temps, parce que oui, j'adore le beau jeu, j'adore. Mais moi, je préfère des 3-2, des 5-4 ou à des 1-0, tant que le résultat final. Et pour nous, mais c'est vrai que sur ce match-là, on n'a pas été
C'est l'envie, quoi. Encore une fois, je répète,
on
c'est.
n'a pas été au rendez-vous finalement au niveau de la qualité, au niveau de la prestation, etc. Et si on devait faire, alors je sais qu'on le fait souvent en fin de podcast, mais si on devait faire un bilan individuel sans passer joueur par joueur, pour moi, le seul qui a fait son match, qui était en mission, c'était Saliba.
Ouais, Saliba, bien sûr.
Parce que tous les autres, soit on les a moins vus que d'habitude, donc auquel cas je peux pas dire qu'ils ont fait un gros match, sans être mauvais, mais on les a moins vus, soit ils ont été en dessous de leur performance. Je sais que je vais pas faire des amis. Trossard, tu lui enlèves le but, c'est Fantomas, c'est Casper, c'est qui tu veux, mais on ne l'a pas.
Et Saka, c'est quoi son match?
Eh ben, si d'après moi, alors tu vois, je sais que je vais peut-être faire des bons, mais pour moi, sur la ligne offensive des trois, Saka a été le plus remuant. Je vais pas dire le meilleur, mais a été le plus remuant. En même temps, on sait que le jeu d'Arsenal bascule toujours sur le côté souvent sur le côté droit, donc forcément il est toujours plus mis en lumière. Alors il n'a pas été super dangereux, il a une occasion tout en début de match où il fait une frappe où il peut mieux l'enrouler, mais ça passe pas, ça va dans les bras du gardien. Havertz, il s'est beaucoup dépensé comme à chaque match, on l'a beaucoup moins vu, mais moi sur le but, le seul but que l'on met, si je devais donner une importance, ou on va dire si je devais pondérer la responsabilité des joueurs sur ce but-là, alors il y a la passe en profondeur sur Havertz, bien entendu, il faut la faire, mais pour moi, Havertz, il fait 60% du boulot sur le but. Après, bien entendu que le. Mais non, mais attends, mais je te l'argumente. À savoir que le centre, il est d'une précision chirurgicale, ce qui fait que Trossard se retrouve à 1,50 m de la ligne de but et qu'un plat du pied. qu'à mettre, mais il faut la mettre. Et que Trossard, là où je, ce que je vais mettre en avant dans le travail de Trossard sur ce but-là, c'est son appel au premier poteau où il va chercher et proposer une solution. Mais le centre, pour moi, il fait la différence. Alors, je dis pas que le but, il est 100% inverse, mais je trouve que c'est l'élément principal. Si j'enlève Casemiro qui se retrouve et qui met tout le monde en jeu, mais pour moi, c'est l'élément principal. Après, il a eu très peu d'occasions.
C'est ce
Pardon?
que j'allais dire, pas non, Raoul, c'est ce que j'allais dire. Enfin, 100% du but, c'est Casemiro. Après, Havertz fait le bon choix et il est intelligent dans ce qu'il fait parce que effectivement, il fait le geste juste. Mais Casemiro, à ce niveau-là, faire ce qu'il fait, c'est.
Ouais, mais alors, Méchane, alors là, je te pose une question. Bien sûr que Casemiro, son placement, il est répréhensible et qu'il est.
Catastrophique son
Ah non, mais je
placement.
suis entièrement
Il
d'accord.
est au
Mais
niveau de. Non, mais c'est surtout pareil, il est au niveau d'Onana et puis la lenteur avec laquelle il remonte.
en
Après,
fait, c'est surtout, c'est pas son placement, c'est sa lenteur de remonter. Parce que, en fait, pourquoi il décroche? Il décroche parce qu'il veut proposer une solution à Onana. Et Onana fait le choix de relancer long et il perd le ballon. Donc, son placement au moment du dégagement d'Onana, il est là où il doit être puisqu'il propose une solution. Sauf que, à partir du moment où Onana allonge, effectivement, sa course doit être beaucoup plus vive pour remonter, récupérer sa ligne défensive, pardon, donc les trois autres défenseurs, et s'aligner dessus. Mais si on parle du placement, en tout cas de la non-remontée de Casemiro, le point déclencheur, ça reste Onana. Et je tiens à le préciser parce que si on doit remonter jusque-là, parce que si c'est l'inverse et que c'est Manchester qui marque sur ce genre d'occasion, on en met plein la gueule sur Raya.
Ah oui, c'est clair.
Donc le
Mais
premier responsable côté
là, c'est
Manu,
Onana.
pour moi,
Onana,
c'est Onana.
that's my name. Onana,
C'est ça.
that's
Donc,
voulais pas faire.
pour répondre à ta question initiale, j'ai trouvé Saka le plus animé des trois devant. Sans dire qu'il a fait un bon match, mais c'est lui qu'on a le plus vu, je trouve, sur la ligne offensive. Voilà. Mais vu tes yeux, parce que les gens ne te voient pas, et ton sourire, je suppose que tu n'étais pas d'accord avec moi.
Non, enfin, si, globalement, je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'effectivement, sans cette erreur d'Onana, il n'y a pas le but. Donc, à partir de là, bon, sans cette erreur de Casemiro, pardon. Je sais pas. Moi, je veux vraiment voir ce genre de match, alors que le meilleur joueur de Manchester sur ce match, c'est Diogo Dalot, et que ton numéro 10 sur ce match, c'est McTominay. McTominay! Mais attends, c'est comme si tu mettais numéro 10 à Arsenal, tu mettais Elneny. Je ne sais pas si on se rend compte, et encore, je pense qu'Elneny est meilleur. Enfin, vraiment, un match avec Diallo à droite, c'est sa première titularisation. Casemiro, effectivement, dans l'axe. Evans, 36 ans. Wan-Bissaka, qui. Je ne sais même pas s'il est titulaire à l'Olympique Lyonnais, joueur. Enfin, je sais pas. C'est vraiment. Moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match dès lors que les joueurs, franchement, je sais pas s'ils en avaient rien à foutre ou pas, mais en tout cas, ils ont fait le minimum. Voilà, ils ont fait le minimum et donc c'est difficile
Ah,
pour moi.
je pense que c'est difficile de dire que les gens n'en avaient rien à foutre quand tu joues encore le titre. Je pense qu'il y a une part
Alors,
d'anxiété. Je
quand
pense
tu vois
que
le match, moi, quand je vois le match.
la peur de mal faire, quand tu vois le nombre de ballons qu'on a perdu sur des
Non,
relances.
il n'y a pas de peur.
Alors
Non,
après,
Raoul,
on
il n'y a
sait
pas de peur.
par.
Non, non, non. Moi, je veux bien qu'on trouve des excuses. Pardon, hein, je suis un peu.
Non, non, mais vas-y, moi, je veux pas
Je veux
de.
bien qu'on trouve des excuses et tout, mais là, sur ce match, je suis désolé, Raoul, quand il n'y a pas de course, quand il n'y a pas d'appel, quand en phase offensive, on est tous arrêtés, quand tu as un Partey qui joue en sénateur, quand le seul joueur qui fait un minimum d'effort, c'est Saliba. Je sais pas, moi, comme tu dis, Trossard, son match, à part son but. Ciao, Rice, bah, sur un match où l'équipe adverse a le ballon, effectivement, se projeter vers l'avant, c'est difficile, mais surtout, moi, j'ai été surpris sur des phases offensives où, allez, faut y aller, quoi, go, foncez, les gars, il y a une balle de contre, et en fait, c'est une phase d'attaque, je crois que c'est Martinelli qui part, et en fait, il est obligé de revenir en arrière parce qu'il n'y a personne devant. Je sais pas, ou alors, effectivement, la consigne, c'était de dire, eh, les gars, 1-0, on met le bus. Et puis on se contente de la victoire parce qu'on a trop peur contre Manchester, parce que c'est vrai qu'à chaque fois on se prend des dingueries contre Manchester. qu'il se passe quelque chose. Mais l'adversaire aujourd'hui est tellement faible. De quoi t'as peur, quoi? Enfin, moi, je te dis, c'est pour ça que je trouve que il faut qu'il y ait un truc dans ces... Et en même temps, on grandit, hein, et on apprend année après année, on apprend. Mais quand je vois des équipes comme Leverkusen, capables de mettre une intensité tout le match, de jamais rien lâcher et tout, et que là, tu vois au bout de la 20e minute, dès lors que tu mets le but, il n'y a plus rien. Ça me... Je suis jaloux, quoi. Je suis jaloux d'une équipe comme Leverkusen, je suis jaloux d'une équipe comme l'Atalanta, qui est capable de mettre, qui est capable de créer des choses. Je suis jaloux d'une équipe comme le Real qui lâche rien, de rien, de rien, même quand tu es au plus bas du plus bas. Moi, encore une fois, je peux comprendre qu'il y a des matchs où l'adversaire il est plus fort que toi, où tu es un peu moins bien, ou etc. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce que je disais, que c'est les mêmes remarques que je disais contre le Bayern. Moi, je veux que tu es un joueur professionnel, je veux que tu crèves sur le terrain. Je veux que tu aies plus de souffle. Est-ce que tu as vu, juste je fais un parallèle, est-ce que tu as vu l'état de Bellingham quand il est sorti contre le Bayern?
Le Bayern était mort. Ouais.
Et on dirait qu'il allait s'évanouir. Je n'ai jamais vu ça à Arsenal. Je n'ai jamais vu ça d'un joueur comme Saka. Je n'ai jamais vu ça d'un joueur comme Havertz. Je n'ai jamais vu ça de personne à Arsenal. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Pour moi, ce n'est pas possible ça. Enfin, et là, tu joues Manchester. C'est quoi? T'es pas motivé contre Manchester? Non, franchement, après, peut-être que je suis trop dur, hein. Peut-être que je suis trop dur, et en même temps, c'est mon équipe, donc je m'autorise le droit de l'être. Mais franchement, j'ai perdu 1 heure et demie de mon temps devant ce match, quoi.
Ah, le match n'était pas top, de toute façon, mais ça, je pense que je pense sincèrement que personne de la communauté d'Arsenal au sens large, et encore moins de ceux qui nous écoutent, personne dira que le match était plaisant ou que c'était une grosse équipe de Manchester en face. Ça, c'est
On a fait le taf, point. C'est pour ça, je sais pas.
on est tous d'accord pour le dire. Après, c'est sûr que quand tu vois qu'à la première mi-temps, et encore une fois, on ne parle pas du grand Manchester de Ferguson des années 97, 98, jusqu'à 2004, 2005. Mais je me suis amusé, j'ai trouvé, je crois d'ailleurs c'est le compte d'Arsenal French Club qui l'a mis sur Twitter, la stat à la mi-temps. Alors, les expected goals, moi, je m'en fous, j'ai jamais rien compris, ça me saoule. Mais c'est 8 tirs pour Manchester pour 0 cadré, OK? Mais il y a, comment dirais-je, au moins en tente. C'est 5 tirs pour Arsenal pour 2 cadrés, dont un but. Et c'est 55% de possession pour Manchester en première mi-temps. Et c'est ça, je trouve que c'est malheureux, c'est qu'à un moment donné, si tu dois prendre les choses en main et gagner le match, et avec l'équipe qui est la leur, tu dois tuer. C'est une évidence. Pardon.
Voilà, je
Donc
comprends.
voilà. Après victoire, il reste un match, Meshad. Il nous reste un match le week-end prochain
C'est
contre
ça.
Everton. Et il
C'est
faut
ça.
surtout. Alors là, je sais pas si tu as écouté le podcast jusqu'au bout, mais moi j'avais donné comme prédiction que Manchester City ferait 2-2 à Tottenham et que du coup on repasserait devant à la différence de but. Vu les dernières prestations de Tottenham, j'ai de plus en plus de doutes, mais de toute façon c'est le seul scénario que l'on peut espérer. Et mardi ça va être alors non pas un tournant décisif, mais ça va donner une vision de ce que sera la dernière journée. Après, ce qui est dommage, si on n'est pas champion, c'est que tu joues le titre sur la dernière journée, que tu n'es pas maître de ton destin, et que tu joues à la maison, et que la fête, qui est souvent la fête à Arsenal avec la tournée d'adieu de certains, le tour de stade des joueurs avec leurs enfants, leurs familles, etc., bah, l'atmosphère risque d'être assez pesante à l'Emirates si on termine pas champion. Par contre, si on termine champion, je pense que ça va être une folie au stade.
Ouais, ce sera la première fois et bien l'unique fois où on sera supporter de Tottenham sur un match. Espérons qu'il passe le taf pour nous, mais c'est encore une fois, c'est dommage parce qu'on avait notre destin, le destin entre nos mains, et notamment notamment ce match contre Aston Villa qu'on perd, qui va nous coûter le titre, je pense.
Bah,
Mais
je suis là, ma dame, hein, le
là
2-0,
aussi.
là.
Mais pour autant, d'un point de vue comptable, on fait une saison extraordinaire et c'est aussi ça qui est frustrant. Et en même temps encourageant, c'est que la marge de progression, elle est là, elle est bien là, et on aura lutté jusqu'à la dernière journée pour avoir un titre, quoi.
Bah,
Donc,
on est notre équipe que l'on supporte aura été dans la course au titre jusqu'à la fin. Bah, je veux dire, on parle quand même de Première Ligue, hein. Je veux dire, c'est quand même pas
Oui, c'est
et on
vrai.
parle quand même d'un potentiel champion qui serait City, qui est quand même l'une des très 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 bonnes équipes d'Europe. Là, je pense qu'on peut dire que c'est avec pour moi avec le Real sur les 5 dernières années. C'est les deux meilleures équipes.
Ouais, bien sûr, en tout cas les plus régulières.
Quoi
Mais tu vois,
qu'on en dise, tu vois.
je vais juste faire je ferme la parenthèse sur ça parce que peut-être que les joueurs, enfin les joueurs, pardon, les gens qui vont écouter le podcast vont encore dire que je râle et tout. Mais pareil, je vais juste dire quelque chose et peut-être que enfin, tu seras probablement d'ailleurs d'accord avec moi. En fait, Arsenal, ce club-là a une histoire, a un niveau de performance. Moi, quand j'ai commencé à suivre ce club, c'était un club qui écrasait tout sur son passage. Tout. Avec des joueurs d'une qualité technique, d'un QI foot, d'une puissance physique. Bref, c'était une équipe qui avait tout. C'était l'époque des Invincibles. Et donc, évidemment, je ne dis pas qu'il faut qu'aujourd'hui on retombe dans ce que l'on avait auparavant, etc. Mais en fait, je trouve que notre degré d'exigence, au vu de ce que Arsenal nous propose, n'est pas assez fort. Et qu'on a oublié l'histoire de ce club. Moi, je ne cesserai pas d'être exigeant avec mon club parce que je sais où est-ce qu'il a été à un moment et que je ne veux pas que mon club aille autre part, ailleurs que ce qu'il a été et ce qu'il a pu être. Quand je suis hyper sévère sur un David Raya qui fait des erreurs de quelqu'un qui est footballistiquement pas très intelligent, c'est pas parce que je m'amuse et que ça me fait plaisir de l'insulter. C'est parce qu'il n'est pas au niveau de ce que devrait être ce club. Quand, en début de saison et pendant très longtemps, j'ai été sévère contre un Havertz, c'est pas parce que ça me faisait plaisir d'être sévère contre un Havertz, c'est parce que il n'avait pas le niveau pour être titulaire dans une équipe qui veut être championne en Angleterre et qui veut aller loin en Ligue des Champions. Aujourd'hui, ça va mieux. Et comme tu l'as dit sur le précédent podcast, il m'a fait fermer ma bouche, pas de problème. Mais les gars, il ne faut pas qu'on arrête d'être exigeant, il faut qu'on soit exigeant avec cette équipe parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire en sorte que cette équipe retrouve son aura d'antan. Quand un joueur, aussi grand soit-il au Real Madrid, rate un match, il se fait éclater parce que c'est l'exigence de ce club. Vinicius, il rate un match demain, il va se faire manger par la presse, par les spectateurs, par tout le monde, parce que c'est l'exigence du grand club. Voilà, c'est des grands clubs. C'est tout ce que je voulais dire. Raoul, il reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on ne ferait pas le top flop sur ce
Ouais,
match-là?
vas-y, bien sûr.
Flop. Non, pardon, je vais commencer par les tops parce que top, Diogo Dalot. Non, sérieusement. Mais c'est vrai, en plus, il a été très bon. Top, je dirais Saliba. Voilà, j'ai pas d'autres top joueurs à mettre. Flop, je dirais le reste de l'équipe. Voilà pour moi.
Alors, mon top 3, moi, je voulais dire Saliba. Saliba et Saliba, parce qu'il a fait une masterclass, vraiment. En flop, vraiment en dessous de ce que j'espérais et voire pas très bon, et là je sais que par contre que ça va peut-être faire réagir, je vais vraiment mettre. Ah, non, bah, après, c'est le seul qui marque aussi. C'est compliqué, mais moi je vais vraiment.
Tu assumes.
Non,
Raoul,
mais bien sûr, mais après je me dis, est-ce que le fait de dire Trossard plutôt qu'un autre en flop, sachant que c'est lui qui nous donne la victoire parce qu'il est décisif à un instant T, est-ce que ce but-là ne l'empêche pas d'être dans le flop? Le
Raoul,
problème, c'est que.
ça aussi, il faudra qu'on en fasse un podcast. On en a parlé avec Axel cette semaine. Il va falloir aussi qu'on fasse un podcast sur ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui se cachent derrière des stats, buts, passes
Bien
D, sauf
sûr, ouais.
qu'aujourd'hui, pour analyser. Les performances d'un joueur, les buts et les passes D ne suffisent plus. Faut arrêter avec ces conneries. Donc mets trop ça, moi je suis
Bah
d'accord
moi,
avec toi.
ouais, bah moi j'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé son match. J'ai pas aimé Partey. Donc, je mettrai Trossard, Partey. Et je vois le temps qui passe. Je me dépêche. Et Tomiyasu. Voilà. et je te laisse conclure.
On clôt ce podcast. Le débat continue sur les réseaux, sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube. Mettez vos commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. On fera un podcast où on invitera aussi plein de gens. Peut-être pas, pourquoi pas proposer un format live où les gens interviendront. Enfin, on verra. On est en train de réfléchir avec Raoul et Richard. Merci de nous avoir écoutés et on se dit, c'est quand le prochain match? C'est la semaine prochaine?
Ouais, dimanche prochain à 17h.
Dimanche prochain, 17h contre Everton. Merci à tous, merci Raoul.
Gros bisous, Michel. Ciao tout le monde.